Le midi, j'ai le temps, il paraît, hein,
finalement. Ben oui.
Ah ben! Ben oui, j'ai le temps d'écouter Boulevard 102.1, l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, votre émission d'actualité du midi. Aujourd'hui, on va se faire une dernière heure un petit peu plus humaine, cependant, puis c'est deux sujets qui font beaucoup jaser, alors vous préparez à nous texter au 418-971-1021. On va avoir Rose Guérin, cette jeune femme qui, à 13 ans, un médecin généraliste du cœur, prend des hormones, toi, devient Maxime. Puis à 16 ans, et puis je vais vous faire jouer l'extrait tout à l'heure pour la mettre en place, elle s'en va pour se faire faire la mastectomie, se faire enlever les seins. On est signé là, et là, elle lit le formulaire, puis elle dit, « Ben voyons, il faut que je sois majeur pour ça, j'ai 16 ans. » Bon, c'est pas grave, signé, puis on va vous la faire. Pas grave, signé, puis on va vous la faire. Donc, on va parler avec Rose Guérin, qui maintenant demande une détransition, c'est-à-dire elle est passée de Rose à Maxime, et là, elle est redevenue Rose, elle a 22 ans. Elle demande de se refaire poser des seins, puis là, le régime public lui paye pour la transition, mais pas pour la détransition. Donc, on va parler de ça avec Rose Guérin. Soyez très attentifs aux alentours de 13h10. Et à 13h30, on va avoir également une ex-victime de violence conjugale, Mme Nancy Trottier, qui est maintenant conférencière. Je veux absolument qu'on parle, on a parlé ce matin, je veux qu'on en parle ici, on en jase, Pascal, de messages haineux d'hommes au bas d'un article qui annonce le 10e féminicide au Québec.
Mm-hmm. Des commentaires assez épouvantables là,
oui,
qu'on a
exactement.
Vu circuler même c'est sur les réseaux sociaux. Là.
Oui, on va l'en lire justement tout à l'heure, mettez des commentaires de genre « Ouais, mais hein, t'es, vous savez pas ce qu'elle a fait hein, pour mériter ça! » En passant, personne ne mérite de se faire tuer. Là.
Non, puis tu sais, même des jokes, il y en a qui se défendent par des jokes, là. Oh, ouais. Ça devrait même pas avoir lieu, mais genre, ha ha ha, elle avait pas fait à souper.
Moi, c'est ça.
Je comprends pas quelqu'un qui va aller écrire ça en dessous d'un article où on parle de meurtre.
Exactement.
De
ouais, mais là, vous parlez pas des hommes qui sont. Qui ont des difficultés. Ouais, mais j'en ai eu, moi, des difficultés mentales. Je n'ai pas pensé tuer ma conjointe à ce moment-là.
T'as pas fait de menaces ou des choses comme
non,
ça?
Non, c'est ça. Je suis allé me faire soigner. J'ai pris mon petit baluchon, puis je suis allé voir ma médecin de famille, puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi?
Ça va pas?
Ça va pas pantoute mentalement. J'ai besoin d'être soigné. Puis avant, j'avais appelé au centre de prévention du suicide. Puis elle a dit, ben parfait, mon homme, psychologue, puis let's go. Puis j'ai fait une thérapie, puis j'ai changé mes comportements. Pas facile à faire. Ben plus facile de se plaindre.
Puis mettre la faute sur quelqu'un, puis expliquer des comportements qui sont négligents, même envers soi-même, mais aussi épouvantables envers les autres.
Ah ouais, c'est à cause d'elle, là. À cause d'elle, si je file pas. Ouais, t'es-tu posé la question si c'était à cause de toi puis tes comportements? Pas facile à faire.
Et même
faire,
si
ça,
quelqu'un, là, tu fais quelque chose qui te met dans tous tes états,
oh, ouais.
Il y a une limite de réaction à un moment.
Ben, c'est ça. On pense à autre chose à un moment donné, là.
Où on va se faire aider, on va
c'est ça, exactement.
On s'entoure.
On se calme, on prend une bonne bouffée d'air frais, on se calme.
C'est pas facile.
On réfléchit. Il n'y a rien de facile dans ce qu'on dit là. Mais c'est ça la vie, là. Autant les hommes que les femmes ont vu des moments plus difficiles.
Où tu passes après dans la gang des criminels, puis dans cette gang-là,
ben,
c'est pas supposé avoir de joke comme on voit en dessous des articles.
Ah, vraiment pas.
Puis la justice doit suivre son
cours. Ah ouais, on va vous en lire tout à l'heure avant l'entrevue avec Nancy Trottier. Écoute, tous ces gens-là qui ont écrit ça, moi, je les pognerais, je les enverrais en prison. OK, mon homme? T'es un danger pour la société.
Moi aussi, je donnerais quelque chose. Une pénalité judiciaire, c'est sûr.
Ah ouais, va réfléchir. Là. Va réfléchir à ton comportement. Je les enverrai en thérapie en quelque part, mais bref. Ils sont en liberté dans notre société à l'heure actuelle.
On devrait...
C'est très questionnant.
Mettons quelqu'un qui a ce genre de pensée-là à se dire hey, « je vais aller écrire ce type de commentaire-là en dessous d'une publication sur un meurtre, le meurtre d'une femme, quelqu'un qui a subi une violence meurtrière.
Mm-hmm. »
La personne qui est en train de se questionner à se dire « Est-ce que j'écris ça? » Elle devrait tellement se sentir hors la loi puis dans la catégorie critique qu'elle n'écrive jamais ça.
Exactement.
Mais on est rendu dans une société où ça passe, la personne qui l'écrit ose l'envoyer. Il y a plusieurs moments où elle peut se réveiller. Non, non. Au moment de la pensée, au moment de l'écrire, de le taper et de l'envoyer, il y a beaucoup d'engagement là-dedans. Là.
Ben oui. Ah, non, non.
Puis nous, on laisse ça aller.
Écoute, en fin de semaine, j'ai vu la publication de Rachel Renault qu'on a eue en entrevue, qui est la sœur de Gabi Renault. Et justement, on va renforcer les lois. On va l'appeler la loi Gabi Renault pour que les gens puissent voir si leur nouveau conjoint a déjà eu des accusations, a déjà été reconnu coupable de violence conjugale. Puis elle écrivait, c'est hier, dans le cadre de la fête des mères, en disant « Je suis certain que tu prends soin de tes petits loups de là-haut. » Fait qu'à tous les salauds là, qui ont écrit « Ouais, ben, hein, qu'est-ce qu'elle avait fait? » Ben, c'est ça. Ces deux enfants qui vont être privés de leur mère à jamais par un homme violent. Donc, c'est mes derniers commentaires avant l'entrevue. Mais bref.
Puis jamais les
vous savez où est-ce que je me positionne là-dedans? Là, il n'y a pas une excuse au monde pour être violent envers une femme.
Puis si vous voyez des gens autour de vous qui vont pas bien, qui ont un changement de comportement, qui tiennent des propos violents, qui tiennent des propos inacceptables, même si c'est que des propos, si vous aimez cette personne-là, si vous tenez à cette personne-là, agissez. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire.
Ah oui.
Même si ça se rend en prison, même si ça se rend à des accusations, vous n'allez jamais regretter le fait d'avoir probablement sauvé la vie de quelqu'un.
Tu as tellement raison. C'est un excellent, excellent point. Dans la première heure, évidemment, on va revenir sur le hockey. T'es tant qu'à s'en remettre un
ben
peu
là,
peuple. Canadien qui en a gagné deux.
Ben oui.
Luc La Liberté va être avec nous autres parce que le mouvement MAGA en prend pour son rhume. Je vais vous faire écouter aussi avec Luc La Liberté. C'est traduit là, par LCN, là, mais un petit point, un petit moment du point de presse de Donald Trump. Il est complètement disjoncté.
Hey, c'est les commentaires que je me suis fait le plus dire en fin de semaine. Ça va, Donald Trump? Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, non.
C'est dur à défendre, là, un point de presse aussi. Puis encore ce matin, aussi confus, aussi
c'est
étrange.
C'est tellement brouillon, il passe d'une place à l'autre. Ça fait aucun sens.
Il n'a pas les mains sur le volant. Puis en plus, il dit, ben mets plus de l'huile sur le feu. Ben, c'est ma façon de voir les choses.
Il est complètement... Il est ailleurs mentalement. Mais avant ça, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, plusieurs choses. D'abord, ben là, on parlait du point de presse du côté de Donald Trump. On y reviendra. Sinon, on a su ce qui allait se passer dans le dossier Locke-Merville. C'est 2 ans de prison pour Locke-Merville pour agression sexuelle. Donc, c'est le chanteur que vous connaissez bien. C'est une peine de 2 ans pour agression commise en marge d'un spectacle à Rimouski à l'été 2000. Ça fait un bout qu'on en parle, mais là, on revenait là-dessus ce matin. C'est le juge qui a déploré que l'artiste ait considéré la victime comme un objet qu'il pouvait utiliser à sa guise, comme un morceau de viande. C'est quand même des termes importants.
Vraiment.
Juge s'appelle James Rondeau qui a condamné ce matin le chanteur de 58 ans à ses 2 ans d'incarcération. Il y a aussi une période de probation de 3 ans pendant laquelle il va pas pouvoir quitter la province de Québec. Il va aussi être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Lui, il réclamait la possibilité de purger sa peine dans la collectivité. Mais là, on a un peu insisté sur le fait que la prison ferme, c'était la seule peine appropriée vu le degré de responsabilité morale de l'accusé. C'est super important. Je vous rappelle, là, on est là-dedans. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en août 2025, mais les faits qui lui étaient reprochés, c'était en 2000. C'était pendant un spectacle organisé à Rimouski, mais pour la Saint-Jean-Baptiste, et le chanteur, la victime, s'était rencontré dans un bar en soirée. La femme avait raconté lors du procès qu'il y avait eu une courte interaction avec l'artiste et elle a perdu la carte. Et quand elle s'est réveillée, c'était que Merville la pénétrait sans son consentement. Alors, c'est un dossier qui est à venir avec plus de détails, mais quand même, c'est ce qu'on a conclu aujourd'hui de façon assez importante du côté de Rimouski. Le dossier Santé Québec, ça a été implanté samedi. Vous le savez, on en a énormément parlé de ce virage numérique-là. Ça allait bien pour le week-end jusqu'à ce matin où le système a planté. Mm-hmm. Donc, dure matinée, on dit, pour le DSN. Ça a planté du côté de Montréal autour de 8h16 pour une bonne heure. Là, et on faisait des genres de papier sur du papier brun là, que vous connaissez. Fait que ça avait l'air de ça ce matin. Néanmoins, il y a plusieurs problèmes qui ont été observés. On n'était pas capable de se connecter au système EPIC. Les appareils ne fonctionnaient pas. Il y avait absence des examens de radiologie dans le système EPIC. Manque de super utilisateurs sur les étages pour accompagner les médecins. Des informations confidentielles qui concernent les patients qui ont été transmises à des personnes non autorisées. Absence de papier dans les imprimantes. Bon, ça, c'est ce qui est répertorié par le Journal de Québec. On disait, on s'en cachait pas, qu'il y avait à avoir une période tampon ou une adaptation dans le projet pilote. C'est pour ça qu'on ne le déployait pas à grandeur du Québec. Mais voici... ce qui a été ce matin problématique dans le dit dossier. Il y a 4 Canadiens qui ont été exposés à l'antivirus à bord du MV Undius. Ils sont arrivés hier soir vers 18h30 à Victoria. Ils ont été placés en isolement préventif. Auparavant, rapidement, ils ont fait escale à l'aéroport de Bagotville. Il y a eu une 40 minutes là. Ils faisaient partie des personnes encore à bord du navire de croisière qui était touché par l'éclosion suspectée d'antivirus. Éclosion qui a fait 3 morts, plusieurs autres qui ont été hospitalisés jusqu'à maintenant. Pour l'Organisation mondiale de la santé, on poursuit des enquêtes et les opérations de traçage de contacts. Et l'avancement des travaux préparatoires au tramway, ça entraîne d'importantes entraves routières, vous le savez, dans l'ouest de la ville. Et ça, c'est au courant des prochains jours. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 mai, intersection du chemin de 4 Bourgeois et du boulevard Pie-Neuf qui sera complètement fermé à la circulation automobile. Détour, oui, mais par l'avenue McCartney puis le chemin Sainte-Foy.
Caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iacarini. Anto, comment s'est passée ta fête des mères?
Très relax, je te dirais. Très relax, je te dirais, mon cher Jeff, j'ai passé une petite fin de semaine tranquille, on va dire c'est comme
tes
ça.
Tes hommes t'ont-tu gâté un peu?
Correct, mais je suis pas le genre de personne qui s'attend là, à un grand déploiement son et lumière pour la fête des mères. Moi, mon attente, c'est d'avoir tout le monde pour souper, puis qu'on passe un moment ensemble. Puis j'ai eu, mon plus jeune m'a fait un superbe acrostiche avec chacune des lettres de mon nom. Il y a beaucoup de N dans mon nom, donc il a dû être créatif pour tout trouver des mots. Donc, je suis noble et novatrice.
Est-ce que quand j'ai vu ça, moi, j'ai tellement trouvé ça cute, puis je suis partie à rire, je me suis dit, c'est-tu une histoire de dictionnaire, tu penses, dans les lettres N?
Ça se peut très bien. Je ne sais pas si il a fouillé dans le dictionnaire, mais tu sais, j'ai pas voulu le remettre en question.
Non.
J'ai juste trouvé que c'était super. Oui. Et mon plus vieux, bon, ça, je mets pas ça, c'est médias sociaux, parce que c'est un adulte, là, puis que je veux pas le gêner, mais il m'a écrit une lettre. Tu sais, il y a 19 ans, puis il a pris le temps de m'écrire une lettre, puis j'ai trouvé ça vraiment... Il y avait même des dessins dans sa lettre, puis il me racontait des anecdotes d'enfance. Écoute, c'était tellement cool, fait que je suis vraiment contente, puis je m'en fous, je veux pas des cadeaux puis des fleurs, ça m'intéresse pas.
Mais ça, c'est magnifique.
Une reconnaissance.
Wow!
C'est beau, la présence humaine à son maximum. Mais ça veut dire que c'est des bonnes valeurs qui sont inculquées. Je te félicite,
on essaye, Antonine. On essaye.
Ah, pas toujours facile, la vie de parent, mais on finit toujours par réussir à faire quelque chose avec ces deux... Ces enfants-là, t'es moi, mes deux gars, je vais regarder en fin de semaine, coach au flag football, joue au flag football, travaille, sont pleins d'énergie, j'étais vraiment très fier d'eux. Antonine, parlant de fierté, de déploiement de dossier santé numérique qui, finalement, s'est bien déroulé ce week-end.
Ben, écoute, tout est relatif. En fin de semaine, ça n'a pas été le bug de l'an 2000 là, annoncé par certains, j'ai envie de dire, les chevaliers de l'apocalypse là, avec ce déploiement limité de dossiers santé numérique. Mais ce matin, ça se passe effectivement un peu moins bien. On s'y attendait là, à ce qu'il y ait des bugs. Pascal, tu rapportais notamment que on prenait les signes vitaux de certains patients puis on les notait sur du papier brun. Évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on doit beaucoup apprécier du côté de Santé Québec comme témoignage qui arrive du terrain, mais en même temps, on le savait qu'il y aurait des ratés et c'est pour ça aussi que c'est pas déployé partout au Québec en même temps. Donc, on continue de surveiller ça. Puis l'important, ça va être qu'il y ait des ajustements qui soient apportés pour que, justement, quand ça va être étendu au reste du réseau, qu'on s'assure de ne pas faire les mêmes erreurs deux fois du côté du déploiement.
Bien, si tu permets, justement, on écoute la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, à cet effet, qui a réagi, justement, à la panne en Mauricie de ce matin.
Concernant la latence, donc, les problématiques qui ont eu lieu avec les bandes passantes, c'est arrivé aussi ce week-end. Ils ont pu rétablir rapidement. Ce matin, c'est arrivé pour une période d'environ 2 heures. On me dit que c'est corrigé. Vous savez, ce qui est plus important, c'est qu'on a des centres de commandement dans les deux établissements, en Mauricie et au CIUS du Nord, et c'est la capacité de réaction parce que, oui, c'est normal qu'il y ait des anomalies ou des problématiques qui reviennent, qui surviennent.
Moi, il y a ça que je trouve qui a été bien fait dans cette période de changement, c'est-à-dire les espèces de centres de crise là, créés à Montréal et à Trois-Rivières. On l'a entendu aussi en fin de semaine, qui fait en sorte que dès qu'il y a une problématique, ces gens-là sont très disponibles et on est capable de la régler quand même assez rapidement. Fait que ça, j'ai pas le choix de donner une bonne note à Santé Québec pour ça.
C'est un bon point pour eux. Et je dirais, l'autre élément, j'ajouterais dans les points forts, c'est la communication, là, parce que Santé Québec vraiment fait des états de situation réguliers. Ils sont très présents. On sent qu'il y a une bonne transparence. Puis je pense que c'est un des mots-clés, non seulement en politique, mais quand on donne des services publics, de faire preuve de transparence, de ne pas essayer de tout mettre beau tout le temps puis de balayer en dessous du tapis. Au contraire, de répondre aux questions, aux préoccupations. Puis surtout, les préoccupations des gens qui travaillent dans le réseau. Tu sais, les patients, évidemment, hyper important, les citoyens, les payeurs de taxes, bien sûr, mais les gens qui travaillent à travers le réseau. Et on le sait à quel point c'est déjà extrêmement difficile de travailler dans notre réseau public. C'est pas toujours des conditions optimales. Ils sont souvent à bout. Donc, il faut que ce projet de transformation numérique fassent en sorte de rendre leur travail plus facile. Puis je nous invite tous à garder un peu les yeux sur l'objectif aussi. Le processus va être difficile, là. On le savait, puis il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais si on est capable d'avoir vraiment une amélioration en efficacité, en efficience dans notre réseau de la santé, j'invite aussi les groupes d'opposition, les partis d'opposition à ne pas faire exprès non plus de faire dérailler le projet politiquement et de se rappeler que ce n'est pas un projet de la CAQ, là. Informatiser le réseau de la santé puis le dossier santé numérique, là, c'est pas un projet de la CAQ. Je comprends que des fois, on n'a pas envie qu'il y ait des gains, hein, chez nos adversaires politiques, mais là, c'est vraiment un gain pour les travailleurs de la santé et pour les patients du Québec. Donc, il faut rester constructif.
Est-ce qu'on devrait plutôt le voir en se disant on se retrousse tous les manches? On fait la vie habituelle du côté des oppositions, mais c'est un projet de société. Puis si c'est pas la CAQ qui le fait, bien, ça va être un autre parti. Fait que faisons-le tout le monde ensemble parce qu'on veut aller au même endroit.
Oui, puis on ne sait pas, hein, qui va former le gouvernement l'automne prochain. Il y a quelqu'un qui va hériter de ça. Et des dossiers là, sur lesquels attaquer le gouvernement, il y en a plein. Puis les oppositions doivent faire leur travail aussi de surveillance. Puis on sait qu'il y a des enjeux qui peuvent être liés au contrat public qui ont été donnés. Il peut y avoir des enjeux au niveau du cadre financier de ce projet-là. Mais je pense que la limite, c'est vraiment de se dire, OK, on ne fait pas exprès non plus là, pour en faire une crise où il n'y a pas de crise encore. Là, t'sais. Donc, parce que moi, j'ai travaillé là, pour des partis d'opposition. C'est sûr que ton objectif, c'est de mettre le gouvernement mal à l'aise. Mais à un moment donné, il faut choisir aussi nos combats. Puis je pense que j'ai l'impression que même si les gens sont un peu cyniques, tout ce qui a eu rapport avec la réforme du réseau de la santé depuis le début, les gens sont un peu découragés, un peu cyniques, mais en même temps, ils aimeraient ça que ça marche. T'sais, on aimerait ça avoir des gains à un moment donné dans notre réseau de la santé. On a l'impression que c'est toujours un échec, peu importe la réforme, peu importe ce qu'on essaie de mettre en place. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une victoire, là.
T'amènes un excellent point. D'ailleurs, j'ai adoré entendre Patricia Mayotte, présidente de la Fédération des infirmières du Québec en Mauricie, parler du taux de satisfaction des employés. Écoute bien ça.
Sinon, il y a du positif. Okay. C'est un dossier santé numérique. Ça va être un bel outil informatique. Les gens qui l'ont utilisé en fin de semaine, ils ont vu, tu sais, le grand pas de différence avec le papier et tout le numérique. Fait que quand ça sera bien établi, que les correctifs seront apportés, effectivement, je pense que ça va être un très bel outil qui est apporté présentement.
Fait que donnons-nous le temps que ça fonctionne. Et ça, j'ai aimé de la part de la partie syndicale qui a parlé du bug aussi ce matin, qui a dit, bon, ben on aurait aimé ça que ça arrive pas. Les gens étaient pris un peu par surprise. Justement, on en parlait sur du papier brun, tout le kit. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a conclu l'entrevue avec Mario Dumont de cette façon-là en disant, hey, savez-vous quoi? Les gens qui l'utilisent depuis en fin de semaine, ils aiment ça. Ils trouvent que c'est plus pratique, c'est plus agile, c'est plus rapide. Donc, gardons ça en tête, on s'en va vers le mieux.
Bien, puis c'est ça. Je pense que toutes les parties prenantes, toutes les gens impliqués dans le dossier doivent exprimer très clairement qu'ils veulent que ça marche. Et ça, je pense que les groupes d'opposition devraient aussi en faire partie. Mm-hmm. Qu'on ait l'impression que vous voulez que ça marche. Après ça, faut pas être complaisant puis pas surveiller, mais puis les syndicats ont bien l'occasion aussi de dénoncer s'il y a des choses qui sont mal faites dans les prochains mois pour défendre leurs membres, les travailleurs de la santé, bien sûr. Mais ce que je sens dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'on veut que ça fonctionne puis on pense que non seulement il y a du positif, mais que ça va pouvoir améliorer le travail des gens dans le réseau. Donc, je pense que c'est très constructif.
OK, Antonine, on passe à la polémique de la fin de semaine qui n'a pas été le dossier santé numérique, mais Québec solidaire et l'entrepreneur François Lambert. On écoute en premier lieu Sol Zanetti.
Mettons au François Lambert de ce monde, là, faut pas qu'il s'inquiète, là. C'est une petite contribution qu'on va leur demander qui va faire une immense différence pour la société québécoise. Pour eux, c'est de l'argent de poche. Ça va pas changer la qualité de la bouteille de vin qu'ils vont sortir de leur cellier le vendredi soir, là. T'sais, c'est quelque chose, par contre, qui va nous aider à réparer le Québec. Puis si on fait pas ça, la société québécoise au complet va s'appauvrir.
Et voici la réplique de François Lambert sur les ondes de Cube Radio.
Mais c'est de la diffamation. Il assume que je paye pas ma juste part d'impôt, ou les gens d'affaires ne payent pas leur juste part d'impôt. Mais à quelle place qu'ils voient ça? Ils savent-tu combien d'impôts que je paye, combien de taxes que je paye? Je ne vais pas le divulguer. Je le sais combien je le paye. j'ai pas de paradis fiscaux, j'exploite pas mes employés. C'est le discours qui ressort constamment, mais constamment, que pour réussir à avoir de l'argent de côté, puis accumuler une certaine somme, c'est qu'il a fallu exploiter quelqu'un plus bas que nous autres. Ça marche pas comme ça.
Bon, Antonine, résume-nous pourquoi Sol Zanetti a dû tailler François Lambert de ce monde. C'était quoi cette fameuse proposition-là au Congrès de Québec solidaire?
Bon, en fait, le débat sur est-ce qu'on devrait taxer davantage les riches, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est quelque chose qui nous est servi souvent comme une solution un peu magique du côté des partis plus à gauche. Je trouve que ça ressemble un peu aussi à la proposition sempiternelle là, de s'en prendre aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale. Mm-hmm. Là. On va tout régler nos problèmes de financement des services publics avec ces solutions-là. La question de taxer les plus riches, pendant la dernière campagne électorale en 2022, Québec solidaire l'avait déjà apporté, mais il définissait les riches comme quelqu'un qui a au moins $1 million d'actifs. Okay. Là, le problème avec ça,
ben,
en 2026
d'actifs,
ou en 2022...
Là, c'est parce qu'il y a des familles que leur maison vaut $1 million.
C'est
maintenant.
Plus les riches, riches, riches.
Non, non, c'est ça.
Tu sais, quand on était jeunes, on disait « Moi, je vais être millionnaire. » Puis là, c'était gros, là, être millionnaire. C'est plus ce que c'était être millionnaire, non. On s'entend.
À ce temps, on vise d'être milliardaire.
Oui, c'est ça. Ou au moins multimillionnaire, mais... Il faut juste être bien clair, $1 million d'actifs, si vous avez un duplex ou un triplex, là, vous avez des bonnes chances déjà d'avoir $1 million d'actifs. Si vous êtes agriculteur, vous avez de la machinerie, des bâtiments, vous êtes multimillionnaire. Là.
Mais tu n'as presque rien dans les poches parce que justement, c'est tout en infrastructure que tu as besoin à journée longue pour faire rouler ton économie. Les vends
absolument.
Pas, là.
Puis, évidemment, il y en a des personnes riches au Québec là, qui sont ni agriculteurs ni un petit propriétaire de duplex. Il y en a quelques-unes. Donc là, déjà, en fin de semaine, QS a atterri finalement avec le montant de $25 million d'actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle des ultra-riches. Au Québec, c'est ça. Ailleurs, 25 millions, peut-être aux États-Unis, ce ne serait pas grand-chose. Mais dans notre économie à nous, effectivement, $25 million, c'est davantage d'argent. Tant mieux pour eux, parce que je les trouve un peu plus réalistes, parce que de surtaxer les gens qui ont $1 million d'actifs, honnêtement, je veux dire, à part étouffer des gens qui n'ont pas tous énormément de moyens, je vois pas trop l'objectif. Quand on regarde un peu la chicane avec François Lambert, tu sais, premièrement, bon, Sol Zanetti a décidé d'amener le nom de François Lambert vraiment gratuitement. C'est dans le sens qu'ils l'ont pris en exemple, parce que c'est quelqu'un peut-être un peu polarisant aussi, tu sais, qui a eu des propos dans le passé. On pense notamment à combien ça coûte l'épicerie puis tout ça. Là, en 2018, pendant la campagne électorale, il y avait eu une petite controverse entourant ça coûte combien faire une épicerie. Puis François Lambert s'était retrouvé au milieu de tout ça. Et il avait été étiqueté comme quelqu'un qui est un peu déconnecté puis qui comprend pas les gens qui ont moins d'argent. C'est une personnalité qui est bien connue. Donc, QS a décidé de l'utiliser un peu comme une espèce de symbole pour, moi, je trouve, diaboliser un petit peu là, une classe qui est plus aisée au Québec. Est-ce que la proposition de QS est valide? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de commencer à diaboliser le monde qui ont réussi? Moi, j'ai toujours un problème avec ça. C'est pas comme s'il n'était pas beaucoup taxé. Là. On est beaucoup taxé, puis les personnes qui ont pas mal de sous le sont beaucoup. Mais de dire, là, il va quand même se sortir une bonne bouteille de vin de son cellier. François Lambert n'a pas apprécié, puis là, tantôt, on avait un extrait d'une entrevue que M. Lambert a donnée, mais sur Twitter, sur X, il est allé de d'autres propos. Là. Il a dit à QS, à tous les Québec solidaires de ce monde, vos gueules. Tu n'as jamais lancé une entreprise, ta gueule. Si tu penses que les entrepreneurs passent leur vendredi soir à boire du champagne pendant que le peuple souffre, ta gueule. Je bois presque jamais d'alcool et même si j'en buvais, ce serait encore bon pour l'État. Ça continue comme ça pendant longtemps, longtemps. Je m'arrête ici. Mais il était très fâché. Puis pour connaître un peu François Lambert, qui est quelqu'un avec qui je collabore dans d'autres émissions, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort. Ça n'a aucun bon sens. Il ne dort pas la nuit. Il passe son temps à travailler. Donc, j'ai l'impression que ça l'a piqué vraiment là où ça fait mal, évidemment. Puis pour Québec solidaire, là, ben, d'abord, bravo d'avoir changé la définition de c'est qui être riche. Mm-hmm. Mais il y a un enjeu qui est plus profond que ça. C'est le fait que régler les problèmes des services publics, pour moi, ça ne passe pas nécessairement toujours en envoyant plus d'argent.
Okay? En effet.
On est déjà imposé, on est parmi les plus imposants en Amérique du Nord, évidemment, on le sait.
Oui, mais Antonine,
si tu ne règles pas les problèmes profonds, là, tu peux pitcher plus d'argent, mm-hmm. ça ne change rien. Là.
Mais pendant que tu parles de ça, seulement rappeler que ceux qui gagnent 200 000 $ et plus, c'est 48 % de leur salaire qui part en impôt. Mm-hmm. 253 000 $ et plus, c'est 53 % Et ceux qui gagnent 100 000 et plus au Québec, c'est 12 % de la population.
Sans compter.
Qui vaut en proportion 72% d'impôts payés.
Sans compter toutes les taxes en surplus sur les, bon, les objets considérés de luxe ou des trucs comme ça qu'on a ajoutés. Fait que finalement, même si tu veux te gâter un moment, ça te coûte le triple, le quadruple.
Ben, c'est ça. Il faut trouver un équilibre, puis c'est des débats qui sont valides. T'sais, jusqu'à quel point on veut être dans une société où les écarts de richesse sont si grands, mais en même temps, ceux qui créent la richesse puis qui créent des entreprises, il faut qu'il y ait une récompense aussi en arrière de ça pour récompenser le succès. Mais tout ça, c'est une question d'équilibre. Je pense que c'est des débats qui peuvent avoir lieu. Mais c'est sûr qu'il y a une partie des militants chez Québec solidaire qui sont simplement contre le capitalisme. Et ça, ben, je veux dire, rendu là, la création de richesse, ça va pas les intéresser, mm-hmm. finalement, puisque tout passe par l'État. Là, QS nous propose aussi des épiceries gérées par l'État. Tu sais, à un moment donné, ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance, la vigueur d'un secteur économique, d'un secteur privé. Ben, moi, je m'excuse, mais on l'a vu, là, des régimes communistes et ultra-socialistes, c'est une spirale qui s'en va de plus en plus toujours vers la pauvreté. Donc, oui, des politiques qui permettent une redistribution, qui permettent de pallier les effets négatifs du capitalisme sauvage. Là, on est tous pour ça. Mais à un moment donné, je trouve que tu passes à un point où tu crées de la pauvreté.
En effet. Et
un frein à la création de richesse et de prospérité au Québec. Donc, c'est des débats importants, mais je ne suis pas sûre que QS va aller rallier beaucoup avec une proposition d'augmenter les impôts.
Non, puis on a un auditeur qui nous écrit « Les riches ont pris le risque aussi de la création. » Et en effet, quand tu te lances en affaires, ce n'est pas toujours évident. Moi, je ne l'ai pas, ce gars-là.
Puis ils consomment aussi. Ça fait rouler l'économie. Ces gens-là, avec des gros portefeuilles, veulent pas. Ils ont la possibilité de consommer. Puis ça, c'est un cercle économique qui est important.
Antonine, je sais que tu n'es pas une chroniqueuse économique, mais je veux dire, moi, par exemple, j'ai trouvé une façon d'être riche. Puis je te le fais entendre, c'est Mark Carney qui me l'a dit.
I have no reason to lie. I personally use this project and it generates my primary source of income. I have seen participants earn up to $40,000 per month and I want you to have the same opportunity.
Et puis là, quand il me dit ça sur Facebook, là, il y avait la bourse qui montait, là, puis là, il me parlait mm-hmm. de ses produits. Fait que moi, j'ai pris 100 000 $ de mon fonds de pension.
T'as sorti tes REER.
Je les ai sortis. Puis j'ai investi dans une compagnie que Mark me disait, parce que Mark, on l'a élu comme premier ministre.
Mais c'est tellement triste.
C'est notre banquier. Vous comprenez, je fais du sarcasme. Et je suis d'accord avec toi, c'est super triste parce que Meta, là, puis X, puis toutes ces plateformes-là, là, ils s'en balancent qu'un monsieur, comme on a vu dans les journaux, perde 125 000 $ Eux autres,
non,
ils font
le
cash, puis that's it, là.
That's it, là. Puis il y a deux dimensions à ça qui rendent ça extrêmement grave de la part des plateformes de médias sociaux. La première, c'est des gens qui se font frauder, puis que, je veux dire, ça gâche leur vie, là. C'est épouvantable. Puis moi, je veux quand même qu'on fasse attention, parce que tu te dis, oh, comment ça se fait que ces gens-là tombent dans le panneau? Bien, il y a des gens qui ont moins d'éducation financière et qui sont aussi souvent les témoignages qui avaient été rapportés dans le journal sur leur excellent dossier sur ces hyper trucages là qui ont fait perdre de l'argent à des Québécois. Mais c'est des personnes qui sont plus âgées aussi, qui sont moins habituées que les plateformes de médias sociaux. Puis l'autre élément, c'est que on laisse Meta utiliser des hyper trucages de personnalités, qu'elles soient connues ou pas. Il y a vraiment quelque chose là de très grave. Et même si c'est toi, là, mettons, là, on fait une publicité, une fausse publicité avec Jeff ou avec Pascal, je prends votre visage, je prends votre voix, bien, vous n'avez presque pas de recours pour la faire retirer. Mm-hmm. Puis même si elle va être retirée, elle va être réutilisée ailleurs. C'est vraiment parce que Meta et X n'ont pas de règles pour se dire bon ben nous là on va se mettre certaines règles, puis quand on voit clairement, parce qu'en plus c'est assez évident pour, en tout cas pour nous, j'ai l'impression que quelqu'un utilise l'image de quelqu'un d'autre sans son consentement, on ne va pas vendre ces publicités là mais comme tu dis, ils s'en balancent. Et là on voit là des gens qui tombent dans le panneau. Il y a une autre publicité qui a fait perdre à un homme de 66 ans de Lévis, il a perdu 150 000 $ à la suite d'une fausse publicité avec François Legault, l'ancien premier ministre, qui invitait les gens à investir dans des crypto-monnaies et promettait des profits rapides. Je veux quand même lancer le message pour nos auditeurs. si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Okay? Des profits exorbitants avec des investissements, ça n'arrive pas. Et il y a quelque chose d'extraordinaire au Québec qui s'appelle l'autorité des marchés financiers. Mettez ça dans vos favoris si vous êtes quelqu'un qui cherche à investir de l'argent. Parce que ces compagnies-là dont il est question dans le dossier du journal aujourd'hui, souvent, elles faisaient déjà l'objet d'un avis négatif de la part de l'autorité des marchés financiers. C'est à chaque fois que vous voulez investir de l'argent, il y a un courtier qui vous promet toutes sortes d'affaires. Vérifiez auprès de l'autorité des marchés financiers. Puis, si ce n'est pas pour vous, sensibiliser les gens autour de vous. Il faut en parler. Il faut en parler avec nos parents aussi qui sont sur Facebook, qui peuvent tomber dans le panneau. Dites-nous, oh, ça n'arrivera pas. Ça peut arriver. Les hypertrucages sont de plus en plus élaborés. Donc, parlez-en à vos parents aussi.
Antoine, on va parler dans quelques minutes avec Alex Laramie aux alentours de 12h55 du Canadien. Mais je veux te faire écouter ça avant. Hey, la foule est en délai. Victoire du CH 6-2 hier. Mais là, le Parti libéral du Québec, eux autres, ils ont dit « Hey, vu que le monde est en délai sur le Canadien, on fait quoi? On va dire que nos couleurs, c'est le bleu, blanc, rouge maintenant? » Mais ça, c'était juste rouge, les libéraux. Je comprends plus rien.
Effectivement, le logo du Parti libéral du Québec est aussi tricolore. Alors, ils se sont dit, quelle bonne idée. En fait, tous les politiciens québécois en ce moment là, font un petit peu de récupération politique avec leur
hockey. Christine Fréchette avait son gelé du Canadien l'autre jour devant sa table.
Politiciens, entreprises, tout le monde.
Ben oui.
Hey, tout le monde. Tout le monde, si on peut faire une pièce avec ça, on va aller chercher une coupe de vote supplémentaire. Pourquoi bouder son plaisir? Par contre, je dois dire que le PLQ a comme mis le pied l'autre bord de la ligne, là. Commencer à transformer le logo du PLQ.
Ben là, ils l'ont étiré, là.
Ils
ont étiré ça, là.
Ça, c'est non. Puis, je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que des fois, il y a des gens qui ont des bons flashs quand même dans des partis politiques. À l'époque que je travaillais au PQ, c'était en 2016, il y avait eu, 2016-2017, on avait eu une série contre les sénateurs d'Ottawa,
oui,
vous vous rappelez peut-être.
Bien sûr.
Et le PQ était en course à la chefferie à ce moment-là. C'était plus 2015, j'ai l'impression. On avait acheté une publicité dans les journaux dans laquelle on disait « Vous voulez sortir Ottawa? Nous aussi, votez pour le prochain chef du PQ. » Donc ça avait été un bon coup à l'époque, mais bon, ça n'a pas permis de gagner l'élection suivante, mais que voulez-vous?
Que voulez-vous? J'en voulais pas, finalement.
C'était créatif.
C'est ça, exactement. Antonine Iaccarini, c'est toujours un bonheur, on se parle demain?
À demain!
À demain! Salut. Antonine Iaccarini dans le caucus avec nous dans l'émission Nageurs sur Boulevard 102.1 de midi à 12h30 du lundi au jeudi.
Plus ça change, plus c'est pareil. Oui. Par exemple, Santo disait ça là, sur le PQ, mais dans la nouvelle série de Martin Matt,
oui,
qui fait un tollé en ce moment.
Très joyal,
là, joyal.
Oui.
Il y a cette lutte-là, oui ou non, à séparation du Québec aussi. C'est quelque chose qui reste.
C'est quelque chose qui reste et qui va rester parce que on va en parler à la prochaine campagne électorale encore. Après la pause, on se fait un bon bloc news. Luc Laliberté va être avec nous pour parler de Donald Trump et de cette guerre en Iran qui ne se termine pas. Puis on va terminer la première heure avec une bonne chronique sportive d'Alex Laramie. Victoire du Canadien de Montréal et à 6-2, Pascal. Victoire vendredi de 5-1. Qui l'aurait cru? On se parle ce midi, le Canadien est en avance 2-1 dans cette série contre les
Hommes. Ça vous apprendra à être des traîtres.
C'est fou dans la tête ce qui se passe à Montréal.